Galates chapitre 5 et on va lire en entier. Verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, donc, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est-il donc aboli? Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. On a vu dans les chapitres précédents que Paul défend l'Évangile contre toutes les influences, et particulièrement celle du judaïsme, ou des judaïsants qui étaient là et qui voulaient influencer ces jeunes chrétiens, certainement, qui n'avaient pas beaucoup de bagages, on pense, en tout cas, qui étaient très faciles à influencer. Et ces judaïsants qui disaient, pour être sauvé, il faut faire des œuvres, c'est-à-dire vous faire circoncire, refaire ce que la loi exige. Évidemment, Paul n'est pas d'accord. Puis continuera en faisant le contraste qu'il y a entre la loi qui, évidemment, révélait le péché à l'époque et qui, finalement, nous disait simplement « comme tu ne peux pas la faire, tu vas mourir ». C'est tout ce qu'il y a. Et par contraste, la grâce qui est gratuite, où on n'a rien à faire et qui, finalement, est une vraie bénédiction puisqu'elle donne la vie. La loi tue, la grâce libère, tout simplement. Et maintenant, il va parler de cette liberté que l'on a en Christ, et surtout, toujours en contraste par rapport à ces judaïsants et par rapport à l'esclavage de la loi. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'à vouloir suivre la loi, finalement, ils sont esclaves, alors que Paul, en tant que chrétien, lui, il est libre. J'espère que vous vous sentez libre en Christ aussi, par rapport peut-être à la religion qu'on avait autrefois, ou aux efforts qu'on voulait faire pour gagner le salut. Tout ça, ça ne sauve pas, c'est ce qu'il est en train de nous dire là. Alors qu'il n'y a que la grâce, et c'est là, il faut l'accepter par la foi. Et c'est bien ce chapitre, c'est pour tous ceux qui sont peut-être un peu légalistes en eux. Je sais qu'il n'y a personne ici qui est légaliste, mais on ne sait jamais si on le devient. Pour voir que finalement, en devenant légaliste, on est en train de se mettre des chaînes et on est loin d'être dans le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire cette liberté en Jésus-Christ. Paul va parler premièrement de cette liberté de la grâce. Christ nous a affranchis pour plusieurs choses, il va le dire. D'abord, au verset 1 à 3, il nous a affranchis pour la liberté. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on devienne encore plus esclaves. Heureusement, sinon je ne l'accepterais pas, forcément. Mais il nous a affranchis pour la liberté. Il a donné sa vie pour nous libérer et pas pour nous asservir. Ok, quelque sorte, au début, il résume un peu ce qu'il avait dit dans les chapitres précédents. Celui qui est racheté est maintenant libre. Il n'a plus à se mettre sous la loi. Il est libre du péché. Vous allez me dire, mais je pêche encore. Oui, avant, on pratiquait le péché. Ça ne nous gênait pas plus que ça. Et puis, on le faisait. Puis voilà, on rentrait tranquillement et on dormait bien paisiblement. Aujourd'hui, on ne pratique plus le péché. Il nous arrive de chuter de temps en temps. Et le problème, c'est que là, on n'arrive pas à dormir tranquillement. Et on a envie de demander pardon au Seigneur pour les péchés. C'est bien la différence entre celui qui pratique le péché, celui qui n'est pas sauvé, et celui qui chute de temps en temps. Mais il dit justement que le racheté, lui, est libre maintenant, et de la loi et du péché, parce que Dieu lui donne la possibilité de ne plus pécher. Je ne sais pas si on s'en rend compte, hein. On peut ne plus pécher, mais on ne veut pas. Ou alors la chair, qu'on va voir un peu plus loin, la chair est faible, elle est là et il y a un combat, évidemment. Mais il faut demeurer ferme dans cette vérité, les Galates. Arrêtez de penser à autre chose, sinon ben, vous allez être emporté à tout vent de doctrine. Comme quoi, quand on a une bonne théologie, alors je sais que les gens n'aiment pas la théologie, la doctrine et tous ces machins, surtout chez les chrétiens, mais quand on a une bonne théologie, on a une bonne pratique. Je suis désolé. La vie de chrétien, ma façon de la vivre, dépend uniquement de ce que j'essaie de la Bible et de ce que je comprends, évidemment, et donc forcément de la doctrine et de la théologie. Si je connais rien de la Bible, ben je vais vivre comme je peux. Si je connais un peu mieux la Bible, eh ben je sais comment Dieu veut que je me comporte dans tel et tel domaine. Donc, bonne théologie, bonne pratique, mauvaise théologie, tout simplement. Et là, il y avait ces faux docteurs, enfin ces judaïsants, qui étaient là pour justement influencer, et certainement parce que leur doctrine n'était pas suffisamment éclairée, on pourrait dire, ben, ils étaient facilement influençables. Vous savez, nous aujourd'hui, on n'écoute pas forcément les faux docteurs, mais on écoute ce qu'on pense nous à l'intérieur. Et là, on aurait un tas de choses à dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nos raisonnements par rapport à ce que Dieu nous demande des fois, ou le pasteur demande, mais généralement le pasteur essaie de demander ce que Dieu demande aussi, eh bien on raisonne. Hein. Ah, il faut vraiment faire ça, t'es sûr? Et on raisonne, et finalement, on fait comme les faux docteurs, on se laisse influencer par nos propres raisonnements, et on fait notre propre mixture, on va dire, pratique de la vie chrétienne. Ben, un jour, Dieu nous reprendra peut-être. Hein. En tout cas, il nous évaluera par rapport à tout cela. Mais ça peut nous troubler aussi, et ça peut nous égarer un peu comme ces Galates. Christ nous a affranchis pour ne plus être esclaves de la loi. Pourquoi, une fois que je suis libre, libéré de la loi, libéré de toutes ces choses-là, pourquoi je veux me remettre sous cette loi? Pourquoi vouloir se faire circoncire? Ce que dit Paul, parce que cela rend finalement Christ inutile. Si j'étais sauvé par grâce, c'est utile, puisque c'est comme ça qu'on est sauvé. Mais si je pense qu'il faut se faire circoncire pour être, c'est-à-dire se replacer sous la loi pour être sauvé, ben on n'a pas besoin de Christ dans ce cas-là, puisque je vais me sauver par moi-même, tout simplement. Donc Christ, ça ne servit à rien qu'il meure sur la croix. Évidemment, on n'est pas d'accord avec ça. Et Paul, quelque part, il n'est pas opposé contre la circoncision, puisqu'à un moment, avec Timothée, il va accepter qu'il se fasse circoncire. Ce n'est pas le problème de la circoncision. Le problème, c'est la théologie qui en découle de cette circoncision. Et les judaïsants disaient que si vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas sauvé. Et ça, évidemment, il n'est pas d'accord avec. Vouloir suivre la loi, comme il le dit, ok, vous voulez suivre la loi, mais il faut tout faire, à la lettre, comme Jésus l'a fait. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça ici. Déjà, nous, on est libérés, on a du mal à avancer, alors que Dieu nous aide. Alors, sans l'aide du Saint-Esprit, comme on va voir, et sans l'aide de Dieu pour pratiquer la loi, zéro, nada. Donc, vous qui voulez suivre la loi, hein, il parle aux judaïsants, ben, faites-la en entier, mais vous savez très bien que c'est impossible, donc quelque part vous êtes un contre-témoignage. Nous sommes affranchis pour la liberté, mais affranchis aussi pour une espérance, versets 4 à 6. Hein. Il dit « La loi sépare de Christ. Si la justification, c'est-à-dire être déclaré juste devant Dieu, provient par la loi, c'est-à-dire par les propres efforts, hein, ou par la circoncision, ben, quelque part ça nous éloigne de Jésus-Christ. Si je veux faire par moi-même, par ma religion, ben, je n'ai pas besoin du sacrifice de Jésus-Christ à ce moment-là. Et donc, finalement, je me prive du vrai salut. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui, et de religieux, peut-être, même des fois dans les églises évangéliques ou baptistes, parce qu'on fait ça par tradition ou d'autres choses. Mais attention, il faut savoir si on est sauvé vraiment par grâce, ou est-ce qu'on fait des œuvres, ou est-ce que c'est la tradition qui est là. Ça, chacun doit se poser la question. Mais si c'est par la tradition ou par les œuvres, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes pas en Jésus-Christ à ce moment-là. Et il va plus loin, il dit « Cela fait déchoir de la grâce. C'est dur ce qu'il est en train de dire à ces judaïsants. Vous n'allez pas être sauvés. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Hein. Alors, Paul ne parle pas ici de perdre le salut à des chrétiens, hein, parce que les personnes à qui il s'adresse, c'est ceux qui refusent la grâce, tout simplement, et qui veulent se mettre absolument sous la loi. Mais pas le chrétien. Le chrétien ne peut pas perdre le salut. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas ce qu'il veut dire ici. Mais il parle certainement qu'il y avait dans cette église de faux chrétiens, qui pensaient l'être, quelque part, et qui désiraient se justifier par les œuvres, se dire « moi, j'essaie de faire des choses ». Je ne sais pas si vous avez vu, il emploie « vous » et « nous ». Quand il s'adresse à eux, c'est « vous », et quand il parle des chrétiens authentiques, il parle de « nous ». Donc des fois, il y a dans les églises de faux chrétiens qui s'en rendent peut-être pas compte, parce qu'ils suivent papa, maman, ou parce qu'ils croient que parce que leur famille est dans une église, ben, ils sont aussi sauvés. Ben non, pas du tout. Il faut faire le pas personnellement et accepter la grâce individuellement. Mais ces faux chrétiens, ben, eux, sont en train de se leurrer, tout simplement. « Ah, ben, je fais bien, je vais à l'église, je fais la loi, etc. » Mais finalement, vous n'êtes pas sauvés. « Car vivre sous la loi, dit Paul, empêche finalement Jésus-Christ d'œuvrer. Si je me justifie moi-même par mes œuvres, je me regarde comme bien. Regardez, j'ai bien fait. » Mais quand quelqu'un se fait gracier, généralement, Christ d'abord œuvre dans son cœur et lui montre combien il est mauvais, combien il est pécheur. Et généralement, bah, on s'humilie. C'est pour ça qu'on se convertit après. Parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment pourri de l'intérieur. Mais celui qui se justifie par les œuvres, qu'est-ce que je suis bon, hein? Oh là, qu'est-ce que je suis bon religieux. Les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Ils allaient dans les rues, montrer qu'ils savaient prier, etc., donner l'aumône. C'était rien du tout pour eux, d'ailleurs. Mais ça ne sauve pas. Il faut accepter la grâce. Vivre par la grâce offre aussi une espérance, hein, dit Paul au verset 5. Vous avez cette espérance ? La justice ? Vous espérez manger tout à l'heure ? J'entends plus manger que la grâce. Hein. Il faut s'en souvenir, parce qu'on s'en approche de plus en plus. Hein. Vivre par la grâce offre une espérance, et là, Paul précise par la foi et par le Saint-Esprit. Nous avons cette espérance, non pas parce que ça nous est tombé un jour sur le coin de la tête en se disant « tiens, ce serait bien d'avoir une espérance ». Non, ça vient par la foi, et ça c'est Christ qui nous la donne, et par le Saint-Esprit qui atteste aussi de cette espérance et qui nous aide justement à avoir cette foi vivante et véritable. Et cette espérance de la justice dont il parle là, c'est tout simplement le retour de Jésus-Christ. Est-ce qu'on espère un peu de temps en temps que Jésus revienne vite, d'abord enlever l'Église, puis ensuite quand il viendra sur la terre, poser ses pieds? Vous n'êtes pas pressé, hein? Attendez les vacances, et après on verra, c'est ça? Ouais, bon, de toute façon, il viendra quand il voudra venir, ça c'est clair, mais ça doit être notre espérance et notre attente. Normalement, on devrait être en train de... C'est quand? Hein, quand vous avez votre adversaire, vous attendez le cadeau, vous êtes comment? À Noël, vous êtes comment? Hein? Ah, qu'est-ce qu'elle m'a acheté? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais pour Jésus, des fois, bon, pas pressé, hein, il viendra quand il viendra. Non, c'est notre espérance et c'est aussi notre joie. Non seulement le fait que Jésus revienne, mais une fois qu'il reviendra nous prendre, on parle de la glorification. À ce moment-là, le Seigneur nous transformera, on va ressusciter, on n'aura plus ce corps. Enfin, on ne sait pas à quoi on va ressembler exactement, mais on va ressusciter et tout notre vie va être transformée et on ne péchera plus jamais. Wow. Vous avez déjà imaginé plus pécher ? Enfin, on espère, on essaye, on se bat pour cela tous les jours. Mais honnêtement, je pense qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est d'être dans un corps glorifié et sans péché. Mais ça, c'est pour nous, encore l'amour de Jésus-Christ pour nous, parce qu'il aurait pu nous sauver et dire « bon, vous êtes encore un peu pécheurs les gars, hein, vous me fatiguez ». Mais non, il fait que des belles choses pour chacun d'entre nous. Et j'espère que vous êtes pressés de vivre ça. Oh, on n'est pas pressé de mourir, évidemment, ça je suis sûr, mais pressé de vivre ces choses-là, moi je le suis en tout cas. Car, comme il dit, la circoncision est intéressant. Il dit « et l'incirconcision n'ont pas de valeur ». C'est pas parce que vous faites eux que vous ne faites pas que ça a une valeur quelque part. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Dieu ne veut pas qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien. C'est pas ça qui est important. Mais seule la foi et la grâce sont importants. Parce que c'est Jésus qui a tout fait pour nous sauver. Et il faut le reconnaître. Et quand je l'accepte dans ma vie, je reconnais que je ne peux rien faire. Ma religion ne peut rien faire pour me sauver. Seulement Jésus-Christ me sauve. Et la différence avec la loi, c'est que la grâce incite à l'amour. La loi, généralement, incitait plutôt à la dispute. Et là, on voit évidemment, dans le contexte des Galates, ils étaient plutôt en train de se tirailler, se disputer, se mordre, comme il dit. Se mordre. Imaginez, vous mordre dans l'église, c'est fou, hein. Mais tout ça, la loi en montre bien qu'elle est complètement différente de la grâce et qu'elle ne permet pas de faire ce que la grâce permet aujourd'hui. Et elle mène, hélas, qu'à des disputes, un peu comme la religion aujourd'hui. On s'entretue à cause de la religion, on se dispute. Voilà, parce qu'on n'est pas gracié, parce qu'on ne fait pas ce que le Seigneur demande, tout simplement. Le chrétien, donc, a été affranchi. Ça veut dire qu'on était esclave avant, maintenant on n'est plus. La Bible nous dit qu'on est toujours esclave de Christ, mais il vaut mieux être esclave de Christ que du diable, parce qu'on est aussi appelé ami. Et franchement, je préfère le Seigneur que le diable. Enfin, chacun son choix, hein, mais moi je préfère Jésus-Christ. Et on a été affranchi pour la liberté et pour cette merveilleuse espérance. Et puis il dit, en deuxième chose, la liberté de ne pas agir selon la chair. Nous sommes libres de ne plus agir selon la chair. Paul s'étonne que les Galates stoppent leur course. Voilà. Et ça rappelle un peu au début du chapitre, au verset 6 du chapitre 1, il dit « Ils se détournent promptement de la bonne doctrine. » Ils s'étonnent. Comment c'est possible que des chrétiens qui ont commencé, eh bien d'un seul coup, sont si facilement influencés par ces judaïsants, peut-être par d'autres doctrines, hein, et qui vont en plus les conduire à désobéir à Jésus-Christ, parce que certains, certainement, on peut le faire, hein, acceptent peut-être se placer tout doucement sous la loi. On est peut-être trop sûr de notre foi des fois, hein, en se disant « Je suis un bon chrétien, bon, pas de problème, hein, on est comme ça tous les jours, top niveau, non ?» Ben, vous me rassurez, c'est bien. Ça serait un peu orgueilleux de se dire qu'on est toujours au top niveau, parce que s'il fallait demander l'évaluation auprès du Seigneur par SMS, je pense qu'on serait un petit peu déçus. Hein. Mais eux, certainement, soit parce qu'ils manquaient de doctrine, soit peut-être qu'ils se pensaient qu'ils avaient suffisamment de foi, à un moment, ils se rendent compte qu'ils étaient facilement influençables, par eux-mêmes ou par les faux docteurs. Et Paul dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Le mot « influence », hein, en grec, parle de persuasion, de traître. Une forme de traîtrise, dont le fait d'abandonner la première voie. Hein. Et tout doucement, ces judaïsants ont placé une conviction dans le cœur de ces jeunes chrétiens. Hein. Et ça arrive aujourd'hui. Hein. Vous savez, il y a des gens qui écoutent sur Internet plein de choses et qui disent « Ah, ben, c'est vrai, hein, il faut faire ci et ça. » Oui, mais il faut lire d'abord la Bible avant et comparer ce qu'on est en train de me dire, hein, sur Internet. En tous les cas, cette influence, cette forme de traîtrise, c'est pas celle que Christ appelle. Enfin, Christ appelle les chrétiens, mais pas de cette manière-là, en tout cas. Un peu de levain, il dit, fait lever toute la pâte. J'introduis une toute petite chose dans ma sotériologie. Sotériologie, c'est la doctrine du
salut.
Hein. Si j'introduis juste une petite chose dans la pensée de la doctrine du salut, eh ben, la pâte se lève. Et puis finalement, on arrive à se détourner. Juste avec un tout petit peu, on peut se détourner de la vraie doctrine biblique du salut. Il y en a beaucoup qui parlent de perdre le salut. On s'éloigne complètement de ce que dit la Bible. Et d'un seul coup, ben, tout l'édifice s'écroule. Parce que si, dans la sotériologie, vous commencez à biaiser, vous allez biaiser les autres doctrines forcément. Ça a un impact sur tout le reste. Et c'est là où, justement, un peu de levain, une toute petite chose, peut faire lever toute une pâte et conduire les gens vers l'erreur et la fausse doctrine. Et c'est ce que sont en train de vivre les Galates. Un petit peu de judaïsme, et puis on commence à s'éloigner du Seigneur. Je peux détourner aussi la parole moi-même, avec ma logique, comme on l'a dit tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit lui, je ne suis pas d'accord avec ce que dit la Bible, ça me gêne parce que j'y arrive pas. Et puis on raisonne, et puis on s'éloigne. Peut-être pas de façon flagrante, mais on s'éloigne. Des fois, on lit la Bible, on a envie de sauter des passages. Hein. Il y a des versets, tiens, on dirait même qu'il me parle à moi. C'est bizarre. Alors on se dit, tiens, on va passer à la page suivante, c'est quand même plus sympa à côté. Hein. Ben non. Mais là, je suis déjà en train de faire lever la patte quelque part, parce que je ne veux pas accepter une vérité. Alors, on ne va pas forcément être transformé du jour au lendemain, tout de suite, mais au moins se laisser travailler par le Seigneur et se laisser sanctifier et pas influencer. Paul souhaite que ces judaïsants soient retranchés, verset 12. Hein. Il dit qu'il a pourtant confiance que les Galates vont revenir, mais pour ça, il va falloir œuvrer, hein, et chasser ce qui les trouble. Eux, ils porteront leur peine, ils seront jugés pour ce qu'ils sont en train de faire, mais eux, ils doivent réagir. Et il dit qu'ils doivent être retranchés. Alors, le mot grec, il y a un petit jeu de mots. Alors, on n'est pas sûr s'il l'a fait exprès, mais le mot retranché veut dire amputé, coupé. Alors, si on met le lien avec la circoncision, hein, vous savez ce que c'est la circoncision, hein, coupe. Alors, est-ce qu'il a fait un jeu de mots là? En fait, ce qu'il veut dire pour certains, c'est qu'il veut que ces judaïsants aillent encore plus loin que la circoncision. C'est-à-dire que ce couteau qui utilise la circoncision, ben, les émascule carrément. Il est dur, là, avec eux, carrément. Qu'il en fasse carrément des eunuques. Ah, vous voulez la circoncision ? Ben, on va aller encore plus loin. Il y en a qui le faisaient à l'époque dans les religions. Alors peut-être qu'il faut voir plutôt le sens figuré. Enfin, en tout cas, ils se moquaient un peu d'eux, quelque part. Dans le sens figuré, ce qu'il voudrait Paul, c'est que les Galates ben, coupent les liens, tout simplement, avec ces judaïsants. Vous choisirez l'option que vous voulez, mais dans les deux choses, c'est la même chose, finalement. Il faut que vous vous éloigniez de ceux qui prêchent une fausse doctrine. Des fois, on se dit qu'on est assez fort. Hein. Il y en a beaucoup qui ont une petite stratégie de rester peut-être dans le catholicisme, dans d'autres religions, en se disant « je vais tout changer grâce à moi ». Ça ne marche pas. Il y a des grands hommes qui l'ont fait. Hein. Vous connaissez Billy Graham, par exemple. Très droit à l'époque. Et puis à un moment, l'œcuménisme l'a envahi et il s'est fait avoir. Ben oui, il faut sortir. À partir du moment qu'on reconnaît que les choses ne sont pas bonnes, il faut sortir. Et c'est ce que Paul dit là, à ce moment-là. Car les judaïsants accusaient Paul de prêcher la circoncision. C'est pas seulement que Paul est en train de contrecarrer leur doctrine, mais c'est qu'eux, ils disent que lui aussi, il parle comme eux. Oh, mentez là. Et alors, il le dit, mais alors, attendez, si je parle comme vous, alors pourquoi les Juifs sont en train de me persécuter ? Parce que si je suis comme vous, c'est-à-dire que je prêcherai le salut par la circoncision, mais pourquoi vous me persécutez ? Puisqu'on dirait la même chose. Mais ce n'est pas le cas, justement, c'est complètement faux. Et le fait qu'il soit persécuté par les Juifs démontre qu'il dit autre chose que leur doctrine aux judaïsants. Il dit, sinon, le scandale de la croix aurait disparu. Hein. Le mot scandalon, en grec, parle de pierre d'achoppement. Et on sait que la croix a été une pierre d'achoppement pour les Juifs, qui n'ont pas accepté Jésus comme le Messie, et finalement, ça a été pour leur perte. Paul dit « chassez ceux qui mentent, chassez tous ceux qui disent quelque chose qui est faux au sujet de la grâce et aussi au sujet de cette doctrine que Paul apporte. » Mais ça, ce n'est pas de lui, puisqu'on a vu qu'il avait eu tout cela par révélation. À nous aussi, à un moment, de temps en temps, de se dire « mais est-ce que je ne dois pas couper avec des choses sur Internet ou ailleurs que j'écoute ?» Des fois, je me dis « bon, je suis capable de discerner le faux du bon. Bon, je ne suis pas contre, faites ce que vous voulez. Hein. Bon, je ne suis pas légaliste, mais à un moment, il faut couper. » Les ponts avec ce qui peut peut-être m'influencer. Ce n'est pas forcément les choses religieuses. Hein. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui nous influencent aussi. La famille, les activités, les loisirs. Il y a peut-être des choses qui m'empêchent d'avancer avec le Seigneur aussi. Et là, des fois, il faudrait être un peu plus sévère plutôt que de se dire que Dieu me pardonne tout le temps. Mais pas forcément. À un moment, il faut être clair. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on s'occupe de notre famille. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'on ait des loisirs ou des vacances ou je ne sais pas quoi. Mais il y a un équilibre à avoir, comme toujours. Entre toutes les choses. Et il dit, ne profitez pas de cette liberté pour vivre selon la chair, ou plutôt de vous disputer les uns avec les autres. Hein. Il appelle à ne pas vivre selon la chair, c'est-à-dire que cette liberté là qu'avaient ces Galates qui allaient vers le judaïsme, ça les poussait à se disputer, à se mordre, à se dévorer. C'est dire que, j'imagine, le dimanche matin, à la fin du culte, ils devaient se taper sur la tête, à mon avis. Hein. Ça existe hein, dans les églises, hélas. Mais au sujet de la doctrine. Bon, on peut ne pas être d'accord des fois sur la doctrine, mais on ne va pas se mordre. On s'assoit, on se prend un petit café, puis on discute tranquillement, poliment, non ? Justement, ça va. Moi, j'adore discuter, hein. J'adore débattre, mais dans la paix, pas en nous mordant les uns les autres. On peut ne pas être d'accord des fois. Peut-être qu'il manque un petit paramètre, etc. Mais là, eux, ils se chamaillaient comme des enfants. Et le problème, c'est que vous imaginez, quelqu'un arrive dans l'église pour la première fois, et puis à la fin du culte, ils se tapent tous sur la tête. Le gars, il dit « je crois que je ne vais peut-être pas revenir, hein. Ce n'est pas un bon témoignage, finalement, quelque part. Si on doit régler les choses, faisons-le avec beaucoup d'amour, en ne provoquant pas de division. On peut ne pas être d'accord, mais on peut agir correctement pour régler ce désaccord. » Paul appelle à se rendre plutôt serviteurs les uns des autres par l'amour. Plutôt que vous disputez, apprenez à vous aimer, à devenir le serviteur de l'autre. Et il dit quelque chose qui a dû les tétaniser, car la loi s'accomplit dans une parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit ça à ces judaïsants qui essayaient d'appliquer la loi au maximum et qui se disputaient. Non, la loi dit, aimez-vous les uns les autres. Ça a dû faire un petit choc, à mon avis, dans la tête des judaïsants. On dirait que non, puisqu'ils ont continué. Mais c'est ce qu'il veut leur rappeler. Hein. Ceux qui voulaient marcher la loi démontraient par leur dispute qu'ils étaient incapables. Nous qui marchons par la grâce, normalement, malgré les différences, nous nous aimons. Normalement. Je dis normalement parce que Il y a encore des êtres humains, mais bon, je m'entends. Mais voilà, regardez votre loi. Regardez où ça mène. Ça mène à la mort, ça mène à la dispute. C'est contre la loi, finalement, puisque la loi dit d'aimer son prochain comme soi-même. Quelle démonstration, hein, pour ceux qui aiment un peu la théologie, quelle démonstration il fait là à ces judaïsants. Et je pense qu'ils n'ont même pas compris ce qu'ils étaient en train de faire eux-mêmes, et c'est dommage. Paul montre que vivre selon la chair, et donc sous la loi, finalement, empêche l'amour. Et Jésus-Christ a démontré l'amour. Dieu a démontré de l'amour pour son peuple. Le chrétien qui est gracié démontre de l'amour. Mais vous, avec votre loi, avec votre religion, avec votre chair, vous démontrez le contraire de ce que Dieu demande, tout simplement. Et ça, on n'en a pas envie, nous qui sommes graciés. Et puis, troisième chose, la liberté de marcher selon l'esprit. Plutôt que de marcher selon la chair, marcher donc selon l'esprit. Et il va faire... va montrer le contraste entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Alors, les œuvres de la chair, hein, il y a trois domaines, et il en fait toute une liste là, trois domaines. Il y a le domaine sexuel, enfin tout ce qui est dans ce domaine-là, la relation sociale, et puis tout ce qui est nourriture. Alors, premier domaine, hein, dans le domaine sexuel, il parle de l'impudicité. C'est l'infidélité, c'est la relation sexuelle illicite, c'est l'homosexualité, c'est la zoophilie, c'est le culte des idoles. C'est assez varié, c'est le terme pornéa en grec. Il parle de l'impureté, impureté morale, luxure, dépravation. Il parle de la dissolution aussi, le dérèglement, l'impudicité, le libertinage. Un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en France et qu'on dit que c'est bien. Voilà, tout simplement. Oh, on n'est peut-être pas encore à ce point-là, mais on commence déjà dans beaucoup de domaines. Désolé de le dire. Deuxième domaine, c'est le domaine social, qui nous concerne peut-être plus. Hein. Bon, il y a l'idolâtrie, évidemment, nous ne sommes pas idolâtres, mais l'idolâtrie parle des cultes aux faux dieux. On parle peut-être aussi des fois d'avarice, parce qu'il y avait le dieu Mammon, le dieu de l'argent, ou alors peut-être tous les vices qui étaient liés aux idoles. Hein. À l'époque, on faisait des choses absolument abominables pour ces idoles. Il parle de la magie. Alors, ce n'est pas forcément que la magie, mais ils utilisaient autrefois des drogues pour pouvoir entrer en transe et pour être en relation avec des esprits ou des choses. Sorcellerie, les arts magiques, toutes ces choses-là, on connaît. Il parle des inimitiés. Ben, trouver l'autre comme mon ennemi, avoir de la haine pour cette personne. Ça nous arrive jamais, heureusement. Les querelles, là, ils commencent à rentrer un peu plus dans le détail, un peu pénible. Hein. C'est les disputes, les contentieux, les rivalités, chose qu'il n'y a jamais dans l'Église, heureusement. Les jalousies. Le zèle amer par rapport à l'autre, ce qu'il a, pourquoi lui, pas moi. Les animosités, le mot grec parle de fureur, de colère, un peu comme quelqu'un qui est complètement bourré, et vous savez comment ça explose à un moment, parce qu'il se lâche. Hein. Les disputes, l'esprit de dispute qu'il pouvait y avoir, on parle de cabale aussi, le mot en grec parle de faire une campagne électorale. Quand on se dispute, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir à droite et à gauche, mais t'as vu, lui, il a dit que ça et ça. C'est une campagne électorale, hein, quelque part. Je vous veux avec moi dans mon camp. Et j'ai déjà vu ça dans les églises, hélas. C'est pas beau à voir. C'est triste. Hein. Les divisions, espérons qu'on n'arrivera jamais là. Hein. Sédition, discorde, ça veut dire dissension. Les sectes, c'est l'action de prendre ou de capturer quelqu'un. C'est pas seulement fait de se diviser, mais c'est capturer quelqu'un, comme essayaient de le faire les pharisiens, les sadducéens à l'époque, les religieux juifs. Et puis l'envie, qui parlait évidemment de l'envie, la jalousie de l'autre. Puis il y a le domaine de la nourriture. Alors, il parle de l'ivrognerie. On est en France, on aime le vin, mais ce n'est pas parce que vous buvez du vin que vous êtes forcément dans cette catégorie. Mais si vous êtes torché toute la journée, là, je pense qu'il y a un petit problème. Ce n'est pas bon. Mais le mot parle aussi d'intoxication. Il se passe quelque chose dans le corps, d'ivresse, d'ébriété. On se comprend. Et puis les excès de table. Bon, n'ayez pas peur. On parle d'orgie. Mais on parle aussi d'excès de table quand, à un moment, ben, le ventre, il y en a trop. Et il n'arrête pas là, la liste, parce qu'il dit « et les choses semblables ». Heureusement qu'ils arrêtaient là, parce que c'est déjà beaucoup. En tout cas, tous ces gens-là, comme il dit, ceux qui vivent de cette manière-là, ben, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il dit « mais attendez, de temps en temps, je me dispute. De temps en temps, j'agis peut-être dans cette liste. » Oui, mais il parle de ceux qui vivent constamment de cette manière-là. Et parce que ces gens-là, c'est ceux qui veulent se sauver par la loi, et donc par la circoncision. Et donc forcément, qui vivent dans le monde, parce que le pharisien ne se gênait pas hein, à l'époque, donc forcément, ils ne vont pas être sauvés et n'ont jamais le royaume de Dieu, puisqu'ils veulent, ils veulent vivre par la chair, et donc les œuvres de la chair, on les a vues. Et forcément, ils ne sont pas sauvés. Ça ne parle pas de nous qui arrivons de temps en temps à nous disputer, à nous réconcilier avec beaucoup d'amour, en tout cas je le souhaite, mais qui sommes quand même graciés. Faire chercher le salut, comme on l'a dit, selon la chair, selon la loi, et en plus vivre de cette manière-là, ben forcément, ne sauve pas. C'est clair. Ne pas confondre aussi avec peut-être le chrétien charnel. Vous savez, il y a le chrétien spirituel, il y a le chrétien charnel, il y a celui qui n'est pas sauvé. Le chrétien charnel est quelqu'un qui est sauvé, mais qui se laisse tenter par la chair. On est tous un petit peu comme ça, hein, des fois. Il y a des hauts et il y a des bas. Puis on aime bien marcher en faisant le grand écart. « Ah, j'y arrive pas », etc. On passe tous par ce stade de temps en temps, mais il est sauvé par grâce. Mais le problème, c'est qu'il privilégie bien souvent la chair et tous les domaines de la chair. Le fruit de l'esprit, par contre, il est complètement différent. Et déjà, à noter que c'est le et pas les fruits, parce que souvent j'entends les fruits de l'esprit, il n'y en a qu'un. Mais il est divisé, on pourrait dire, où toutes ces choses, en fait, sont complètement liées. L'amour, agapé, parle de charité, d'affection, des agapes aussi. La joie, kaira en grec, la réjouissance, le sujet de joie. Quand on a l'esprit et le fruit qui en découle, c'est la joie. Vous êtes joyeux ce matin ? Fatigué ? Ouais. La paix, sécurité, la sûreté, pardon, la bienveillance, hein, veut dire le mot. La patience. Ah, quand j'ai l'esprit, je suis patient avec les autres. Longanimité, persévérance, douceur, ça veut dire. Quand je suis patient avec l'autre, je suis doux, je persévère. Il m'énerve, mais je t'aime. La bonté, avoir une bonne disposition, la droiture de cœur aussi peut-être. Hein. C'est pas juste être bon avec l'autre, mais c'est être droit vis-à-vis de l'autre et dans la vie. La bénignité, qui parle de bonté morale, d'intégrité, d'honnêteté vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des autres. La fidélité, parle de croire, d'avoir une conviction dans notre vie. La douceur, c'est la gentillesse, l'aimabilité. Hein. Souvent, on dit que les chrétiens doivent être doux. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être bêtes. Ça, c'est qu'on m'a enseigné quand j'étais jeune. Si quelqu'un est méchant avec moi, je le reprends doucement, mais clairement. Et je ne vais pas me laisser faire, parce que je veux être gentil. D'accord ? Mais on le reprend avec beaucoup de douceur. Et on peut reprendre les gens avec beaucoup de douceur. Ça ne veut pas dire se laisser faire, hein, comme certains le disent. La tempérance, c'est savoir se contrôler soi-même. Ça parle de maîtriser ses désirs. Voilà le fruit de l'esprit. Je ne vais pas piocher seulement l'amour en me disant « je vais avoir de l'amour », mais je ne vais pas avoir de la patience. Parce que si j'ai de l'amour, j'ai de la patience. Si j'ai la patience, je vais être forcément bon avec celui qui m'embête en face. Et forcément, je vais essayer d'avoir de la douceur. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, hein, parce que c'est une logique dans ce cas-là. C'est un tout, c'est un ensemble, et c'est le fruit que le Seigneur veut mettre par son esprit dans le cœur de chaque croyant. Ce n'est pas grâce à moi. Vous êtes assez patient par vous-même ? Si vous me dites oui, je vais vous voir tout à l'heure, je vais vous embêter un petit peu. Hein ? On ne peut pas par nous-mêmes, et des fois on s'étonne même. Comment j'ai réussi à ne pas lui taper sur la tête ? Il m'énerve ! Ça découle du Saint-Esprit, de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Merci Seigneur, non, d'avoir le Saint-Esprit. Parce que quand on va taper l'autre, il faut lui demander pardon. On est mal. Hein. On est mal pour l'autre déjà, parce qu'il a mal. Mais on est mal pour nous-mêmes. Finalement, le fait que ce fruit de l'Esprit permette toutes ces choses dans notre vie, eh ben, nous libère de tout ce qu'on vivait autrefois, des disputes et tout ça. Et ça fait du bien quand on ne se dispute pas, ou au moins quand on se réconcilie. Et qu'on apprend à s'aimer les uns les autres. C'est formidable. Ce fruit ne vient pas du croyant, il découle de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et donc c'est bien le fruit et pas les fruits, en contraste avec les fruits, on pourrait dire, de la chair, quelque part. Là, par contre, tout était au pluriel. Paul appelle donc à marcher selon l'Esprit, et non pas donc selon la chair ou la loi. Et il rappelle qu'il y a une lutte entre l'Esprit et la chair dans le cœur du croyant. Et les deux ont des désirs opposés. Je pense que vous avez déjà remarqué. Vous voulez aller voler dans un magasin, puis d'un coup, le Saint-Esprit vous dit « C'est pas bien, c'est pas bien. » Bon, enfin, j'espère que vous êtes déjà un peu plus évolué que ça. Hein. Mais bon, je me fais comprendre. Mais ils sont, le mot grec veut dire « Les deux sont adversaires, contraires, opposés. Ils se battent. » Des fois, on dit qu'ils sont ensemble tranquillement. Non, c'est chacun dans son coin. Hein. Alors, à un moment, je laisserai la chair avancer. Et ben, l'Esprit, ben, il est attristé, comme dit la Bible. Mais à un moment, je laisserai l'Esprit avancer. Et puis la chair, ben, elle sera dans la cave, tranquillement. Hein. Mais les deux vont tout le temps se battre, s'opposer. Et il dit pour nous empêcher de faire n'importe quoi. Je ne sais pas si on réfléchit vraiment, mais grâce au Saint-Esprit, je ne fais pas n'importe quoi. Pas grâce à moi. Pas parce que je suis un super chrétien, mais parce que le Saint-Esprit m'aide. C'est un garde-fou, en fait. Alors oui, des fois, ben, on est plus fort que lui, on se bat plus, et puis la chair gagne, et puis ben, on chute, ça nous arrive. Mais ce combat va continuer jusqu'à la fin de notre vie. L'idéal, ça serait que, en marchant selon l'esprit, eh bien, l'esprit est plus de part, on pourrait dire, que la chair. Mais elle reviendra, hélas. Et des fois, on croit qu'on a fini, qu'on a enfin accompli quelque chose. Et bien, d'un coup, le Saint-Esprit met le doigt sur autre chose. Et on recommence. Mais Dieu, vous savez, il aurait pu nous libérer. Hein, certains, je lisais des commentaires, ils disaient, mais Dieu aurait pu nous libérer d'un seul coup de tout le péché, ça vous dit ? Plus jamais de péché. Oh, l'Église, top niveau de l'Église. Hein. Oh là là, oh, bonjour mon frère, je t'aime, etc. Un peu, bref. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis cela ? Mais simplement parce qu'on ne serait plus dépendant de Dieu. Si on ne pêche plus, peut-être qu'on ne penserait plus à Dieu. Eh oui. Et donc le fait d'avoir le Saint-Esprit qui nous rappelle que Dieu est notre Père, mais aussi qui nous rappelle qu'il ne faut pas tomber, ou quand on tombe, qui est notre avocat, ben ça nous lie tout simplement avec le Seigneur. Et ça nous rappelle aussi, comme on a fait aujourd'hui, le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas à la conversion qu'il faut se souvenir qu'il est mort une fois sur la croix, mais je crois que c'est tous les jours qu'il faut, enfin tous les jours, je m'entends, qu'il faut se souvenir assez régulièrement. Et on s'en souvient quand on pêche, évidemment. Forcément, on demande pardon et on se souvient qu'il a souffert pour moi. Il va employer deux mots pour marcher selon l'esprit. Au verset 16, il dit « marcher ». Le mot grec rappelle un mot, un péripatéo, péripatéticienne. Alors, avant, c'était le philosophe grec qui marchait avec ses disciples, hein, à l'époque de la Grèce. Hein, mais après, le mot a donné autre chose, hein, vous savez ce que c'est. Mais le mot veut dire « marcher », »,« progresser », tout simplement. Dans le texte, il est à l'impératif. Ça veut dire que l'idée, c'est que c'est pas vous dire, tiens, je vais marcher, je vais me mettre à marcher. C'est logique, il faut marcher. Vous êtes déjà normalement en train de marcher. Continuez donc de marcher, selon l'Esprit. Et le deuxième mot, il l'emploie au verset 25, il dit, marchons par le Saint-Esprit. Il va remployer le même terme en chapitre 6, verset 16, et il va le traduire par suivre cette fois. Enfin, on l'a traduit par suivre, mais l'idée, en fait, c'est que nous devons marcher par le Saint-Esprit. Et le mot grec, dire avancer en rang comme des soldats. En ordre. Pour ceux qui ont fait le service militaire, vous vous souvenez, hein, quand on allait au pas, c'était rigolo, qu'est-ce qu'on se marrait. Mais normalement, quand il y avait le sergent ou à côté, on ne bronchait pas, hein, et on marchait bien au pas. Ben, marcher par le Saint-Esprit, c'est exactement cette même idée, le faire avec de la discipline et avec de l'ordre. Ça ne veut pas dire d'être parfait, je ne pense pas l'être personnellement, mais y tendre au moins, et laisser faire le Saint-Esprit dans notre vie, et on avancera au fur et à mesure. Il dit au verset 5, « Si nous vivons par l'Esprit », ou on pourrait aussi le traduire, « Puisque nous vivons par l'Esprit, ben, nous avons crucifié la chair. » Des fois, je lis ce passage en me disant, « Est-ce que c'est vraiment vrai dans ma vie ? Parce que quand je regarde ma vie, elle est loin d'être parfaite. Hein. Est-ce que j'ai vraiment crucifié la chair, ses passions et ses désirs ? Oui, en Christ, oui. Mais le Seigneur, par son Esprit, va nous aider justement à nous en débarrasser de plus en plus. » Techniquement, juridiquement, c'est fait. Mais maintenant, il faut que je me l'approprie, tout simplement. Et il faut que j'avance et que je me laisse faire par le Saint-Esprit. On a pris une décision à la conversion. On a dit, toutes ces choses, je veux les arrêter. Enfin, on avait en tout cas l'intention de le faire. Hein. Puis on s'est vite rendu compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais la décision qu'on a prise à la conversion, elle devrait se renouveler tous les jours. Chaque matin, on devrait demander au Seigneur de m'aider à aller de mieux en mieux, à changer, à ce que cette chair reste tranquillement dans la cave et laisser l'esprit travailler en moi. Il y a des jours où ça marche, il y a des jours où ben, elle est là. Hein. Mais le Seigneur ne nous accuse pas pour autant. Nous avons un avocat auprès du Père, c'est le Saint-Esprit aussi. Il est là pour nous sanctifier, mais aussi pour prendre notre défense. Et à ce moment-là, il nous pardonne si nous nous repentons. Heureusement. Imaginez si chaque fois que la première faute qu'on avait faite, c'était fini. Il n'y aurait personne ce matin. Je relis, moi. Mais bon, heureusement que le Seigneur est plein de patience avec nous. S'il est patient avec moi, parce que c'est souvent ça que moi je me mets dans ma tête quand quelqu'un m'embête. Je regarde toutes les fois où le Seigneur a été patient avec moi. Et il y en a. Pourquoi moi, je n'y arrive pas avec lui, qui m'a embêté une fois. C'est ça qu'il faut faire dans sa tête, dans nos raisonnements. Pas se dire, je vais t'avoir parce que mon orgueil travaille. Le Seigneur est patient tous les jours avec moi. Pourquoi je ne peux pas être patient avec mon frère ou avec même mon patron ou je ne sais pas qui ? C'est une décision qu'on prend, évidemment, dans notre vie. Et il termine avec ce contraste avec la loi. Hein. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Verset 18. Hein. Le chrétien n'est plus sous la loi. Il ne fait pas l'effort d'avancer, il ne fait pas l'effort par les œuvres d'être sauvé, parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui le fait pour lui, c'est le Saint-Esprit. Alors ça ne veut pas dire qu'on est là, on laisse faire le Saint-Esprit tranquillement. Le Saint-Esprit me propose, je donne mon accord, et il m'aide. D'accord ? Il ne faut pas attendre que c'est lui qui fasse tout, parce qu'il ne va jamais aller contre votre volonté. Il faut que je veuille. Alors des fois, on veut, on n'y arrive pas, mais le Saint-Esprit va nous aider à aller de l'avant. Le chrétien, lui, se préoccupe de Jésus-Christ et non pas de la chair. Il ne cherche pas à savoir comment je dois faire pour être sauvé. Lui, il contemple Jésus-Christ. Il contemple son œuvre. Et parce qu'il fait et parce qu'il a l'esprit, ben, ça l'empêche de tomber dans la chair. Et ça lui permet d'avancer dans la grâce. Hein. La loi n'est pas contre ces choses. Là encore, ils ont dû s'hérisser les cheveux, à mon avis, les judaïsants. Comment ça, la loi n'est pas contre ces choses? Mais oui, contre le fruit de l'esprit, hein, puisqu'il termine en disant, il parle du fruit de l'esprit, et puis il dit, la loi n'est pas contre ces choses. La loi dit d'aimer le prochain. La loi dit d'avoir de l'amour pour le prochain. Et le fruit de l'esprit, justement, permet tout cela vis-à-vis du prochain. Donc, quelque part, la loi n'est pas contre ces choses-là, même si on ne se met pas sous la loi à ce moment-là. Hein. Mais l'esprit permet d'appliquer la loi. Jésus est venu, il n'a pas aboli la loi. Il l'a appliquée, mais à la lettre, avec tout l'amour qu'il avait aussi. Alors nous, on ne va pas appliquer la loi, mais en ayant le fruit de l'esprit et en marchant avec le Seigneur, sans le vouloir, nous pratiquons la loi. Nous aimons le prochain. J'espère, en tout cas. Donc, ne cherchons pas une vaine gloire, comme il dit, hein, c'est-à-dire ceux qui vivaient sous la loi, regardez-moi comme je suis plein d'œuvres et pas vous. Imaginez si le ciel était rempli de ces gens-là. Passerait l'éternité à se disputer en disant « Moi, j'ai fait plus d'œuvres que toi. » Wow, ça serait passionnant. Alors que la grâce met tout le monde au même niveau et au ciel, on se dira tous « Merci Seigneur Jésus-Christ, c'est par lui que je suis sauvé, pas grâce à mes moyens à moi. » De toute façon, il n'y aura plus d'orgueil, donc au moins le problème est réglé. Plus d'orgueil, plus d'ego, plus rien défendre. C'est bizarre, hein, qu'on y réfléchit un peu. Il dit hein, « Ne cherchez pas une vaine gloire en vous provoquant. » Certainement qu'il y avait ces légalistes qui se battaient avec ceux qui voulaient rester fermes dans la foi. Là aussi, c'est un défaut des fois. Hein, que quand il y a des gens qui disent des choses fausses, on se met en colère contre eux. À un moment, on ne devrait pas. Ou en vous portant envie, à cause de ces conflits, et forcément que ça peut provoquer de l'amertume et pas forcément de l'amour à ce moment-là. En tout cas, ne cherchez pas une vaine gloire. Il n'y a pas à chercher de l'orgueil. Nulle part dans la grâce, tout est offert. Vous êtes tous au même niveau, je suis au même niveau que vous. Et c'est formidable, moi, je trouve. C'est génial. On ne peut pas s'enorgueillir de la grâce. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit offre donc aux chrétiens graciés de vivre la liberté. Et dans cette liberté, il permet d'aimer le prochain. La prochaine fois que vous vous disputez avec quelqu'un, dites-vous, c'est faux. J'ai la possibilité d'aimer celui que je déteste, non ? Ben oui, c'est ce que dit là le Seigneur. Je peux l'aimer, même s'il est pénible, même s'il m'embête, je peux l'aimer. Mais il faut essayer, il faut se laisser faire par le Saint-Esprit. Il y a du boulot, hein. Beaucoup de boulot. Je vais venir vous embêter dans la semaine, comme ça vous allez commencer à travailler. Je rigole. Pour terminer, Paul veut donc démontrer dans ce chapitre la liberté du chrétien et quelle liberté nous avons en tant que graciés. En tant qu'enfant de Dieu, qui en plus a quelqu'un qui l'aide pour avancer, mais qu'est-ce qu'on voulait de plus, non ? Qu'est-ce que vous voulez de plus pour avancer ? On a absolument tout par rapport à ces religieux qui sont sous l'esclavage, qui doivent faire des efforts pour pouvoir avancer et pour ne pas être sauvés finalement. Quel contraste entre les deux choses. Si je suis un chrétien qui veut être légaliste, ben, je vois là la différence entre les deux aussi. Nous, on a un avantage, c'est la liberté, on a l'espérance. Dieu nous conduit à l'humilité, normalement, à vivre en paix et être capable d'aimer le prochain. Je ne vais pas dire être capable à aimer le prochain. Je revois mes notes. À aimer le prochain, normalement. Et ça, c'est tout le contraire de ce que la loi peut faire dans la vie de quelqu'un ou la chair, quelque part. Soyons reconnaissants pour le Saint-Esprit. On dit merci au Seigneur parce qu'il nous sanctifie à nous le laisser faire. Parce qu'il me corrige. Merci Seigneur de temps en temps de me donner une petite rouste parce que je suis en train de m'éloigner. On n'aime pas les roustes, mais ça fait du bien. C'est comme ça qu'on avance. Merci parce qu'on a un avocat qui plaide pour nous quand nous sommes dans le péché. Je le saisis, je demande pardon et il plaide pour moi devant Dieu. Et Dieu me pardonne. Quelle chance, encore une fois, on a là. Et certainement qu'on pourrait parler énormément de choses par rapport à cette relation vis-à-vis du Saint-Esprit que l'on a avec lui. Alors vivons pleinement cette liberté, non ? Vous sentez libre ? Liberté ! comme l'autre a une chance, là, hein, mais c'est pas tout à fait la même liberté. Liberté en Christ. Hein. Et moi, je pense que dans cette liberté en Christ, nous avons déjà un avant-goût du paradis, de cette glorification. Si je me laisse faire vraiment par le Saint-Esprit, oh, il m'arrivera de tomber de temps en temps. Mais globalement, je vais déjà vivre un peu comme je vais vivre dans le ciel, avec moins de péchés et en obéissant parfaitement au Seigneur. Et ça, c'est un avant-goût du paradis, non ? Ben oui, tout simplement. Méditez là-dessus et prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour Paul qui s'est défendu et qui a défendu la doctrine de la grâce par rapport à ces religieux, ces judaïsants qui n'avaient pas tout compris, évidemment. Seigneur, peut-être que nous-mêmes, nous sommes un petit peu légalistes parfois ou carrément religieux. Je te demande ce matin de nous reprendre, de remettre les choses dans l'ordre. Si nous sommes religieux, ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés. Et Seigneur, ben, touche notre cœur pour que nous puissions quitter la religion pour accepter tout simplement la grâce. Si nous sommes légalistes, apprends-nous à mieux connaître ta parole, parce que bien souvent c'est un manque de connaissance qui nous conduit comme cela. Apprends-nous à la lire et à comparer ce que nous faisons aussi pour avoir une bonne pratique. Seigneur, merci pour la liberté que tu nous donnes. Merci pour le Saint-Esprit. Qui aurait pu imaginer cette relation ? Il n'y a que toi qui a pu imaginer cela. Merci pour cet avocat, celui qui veut nous faire avancer, qui s'oppose à nos péchés, à notre chair, et qui veut simplement notre paix et notre liberté. Seigneur, nous voulons prier pour que nous puissions témoigner autour de nous à ces gens qui ne te connaissent pas, pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'esclavage, dans la tristesse, sans espérance. Accorde-nous de leur parler de notre espérance à nous et de cette belle liberté que eux cherchent d'une manière, mais que nous avons vraiment trouvée en toi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.